Monsieur Grechting, c'est d'abord à vous que je m'adresse, vous qui êtes un véritable docteur, qui opérez de vraies opérations, puisque vous êtes professeur de mathématiques, tandis que moi je ne suis qu'un docteur par honneur, qui en principe ne touche pas d'honoraires. Vous savez que quand on nomme quelqu'un docteur honoris causa, en principe, c'est en compensation d'une communication qu'il a effectuée dans une université étrangère, qu'elle soit française, qu'elle soit américaine, qu'elle soit espagnole, et quand cette communication a été effectuée, au lieu de lui octroyer un salaire ou des honoraires pour le travail accompli, on préfère lui décerner un diplôme d'honneur. Ça coûterait, je pense, infiniment moins. Et on pense que celui qui reçoit ces titres les considère comme infiniment plus. De toutes les distinctions que j'ai obtenues, je crois que ce ne sont pas ces doctorats honoris causa qui me sont venus de gauche et de droite qui me touchent le plus profondément. C'est avant tout le titre d'officier d'académie que m'a décerné le gouvernement français à travers le ministère de l'Éducation nationale et de l'Ordre des Palmes académiques. Ce titre d'officier d'académie est en principe seulement attribué à des recteurs d'université ou à des professeurs éminents de facultés qui ont enseigné pendant plus de 20 ou 30 ans. Une autre distinction de racine qui m'émeut chaque fois que je pense, c'est celle que m'a octroyée la commune où je suis né, mais dont je ne suis pas bourgeois. Je veux parler de la commune de Grosne. J'ai vécu à Grosne jusqu'à l'âge de 20 ans. Et quand je suis parti de Grosne à l'âge de 20 ans, ma famille étant disloquée, j'étais persuadé que je n'y reviendrais jamais. Que j'avais fait définitivement une croix sur mon passé et que l'avenir était ailleurs. Or, en 1985, les souvenirs remontant à la surface de ma mémoire, j'ai écrit un livre sur mon village qui s'intitule « Ce haut pays dont je suis l'enfance ». Monsieur Christing a très bien su faire le lien entre ce haut pays mentionné inconsciemment dans le titre de mon livre et le vôtre. Parce qu'effectivement, dans ma pensée, quand je parle du haut pays, je remonte le fleuve et je ne le redescends pas. Alors cette commune de Grosne m'a fait l'honneur en 1985, puisque je n'y étais pas bourgeois, de m'octroyer la bourgeoisie d'honneur. Moi qui étais parti en sauvage, me voilà en 1985, revenu dans mon village, comme si j'avais récupéré de nouvelles origines. Avec M. Grechting, nous avons eu un premier contact à Sion, où nous avions organisé, ou plutôt la société ovalaisane de Sion avait organisé une conférence avec le bilinguisme à la clé et que chacun devait s'exprimer dans sa langue maternelle en vue de trouver, en dehors des différences, un trait d'union entre votre sensibilité et la nôtre, la mienne. Et ce contact a été tellement chaleureux, a été tellement vivace, a été tellement profond, que M. Krishnin m'a demandé si j'étais disposé une fois à venir dans ce haut pays pour m'exprimer sur mon credo, sur mes expériences, sur mes convictions profondes en français. Je lui ai répondu que oui. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Vous observerez que, contrairement à la plupart des conférenciers ou des orateurs, je n'ai rien avec moi. Je n'ai pas de feuilles. Je n'ai pas de mots passe-partout qui, comme des feux, pourraient capter ma mémoire pour me dire de quoi je devrais parler. Non. J'ai toujours pensé que le fait d'écrire un discours, puis ensuite de le lire, c'était en quelque sorte réchauffer des sentiments, puisque quand on écrit, on les ressent d'abord, et quand on va les lire, on les ressent ensuite. Je suis donc venu avec mon cœur, avec tous les sentiments qu'il détient. Je suis venu avec mon âme, la foi que j'ai en la vie, qui n'est pas seulement une foi religieuse, avec mes convictions profondes, intimes, avec mon expérience et aussi avec mon esprit afin de pouvoir relater tout ce que j'ai pu observer au long cours de mon existence. Je laisse enfin, et je lui fais confiance, je laisse enfin à ma mémoire le soin de décrocher dans l'improvisation, dans la spontanéité, dans la fraîcheur, toutes les images fortes de joies et de peines qui ont émaillé mon existence. Avant d'aller au plus profond de mon être, je voudrais situer un petit peu ce que représente le Haut-Valais, donc votre pays, pour l'homme d'expression française que je suis. Je dois d'abord vous avouer que, autour des années 1950, et ensuite, j'ai consacré plusieurs années à me mettre à la trace de tous les écrivains célèbres qui ont traversé notre canton et qui, par la suite, dans leurs écrits, en ont parlé. Et je me suis aperçu à mon grand étonnement, que tous ces écrivains, en remontant le Rhône, en parlant du Valais, étaient de plus en plus impressionnés au fur et à mesure qu'ils découvraient le pays en amont, en remontant la vallée jusqu'au glacier du Rhône. J'ai vu par exemple que Goethe, qui est votre grand poète de culture allemande, que Goethe, en s'engageant à Saint-Maurice, découvrait une belle vallée, mais qu'à partir de Sierre, il découvrait un autre pays et que, arrivé à Gleitch, fort impressionné, s'est mis à écrire dans ses lettres de voyage: je crois que je suis ici à la source d'un pays qui va beaucoup plus loin que celui dont on parle. J'ai beaucoup d'autres souvenirs de ces écrivains célèbres. Je pense notamment à Flaubert, qui lui est entré en Valais par le col du Simplon et qui est arrivé à Brigue, justement en ces lieux, le jour de la fête Dieu de 1845. Et ce jour-là, après avoir visité la ville, le village, le bourg, il est entré dans un cimetière. Et il déclare dans ses souvenirs que dans ce cimetière, il y avait des feux sur toutes les tombes, comme si les êtres qui s'y trouvaient ensevelis avaient ce jour-là exhumé leurs âmes, et que c'était les âmes qui transparaissaient, qui réfléchissaient à travers ces feux. D'un autre côté, Maupassant a exploré la Guémie, l'Oèche et les environs, et a écrit une merveilleuse nouvelle qui s'appelle « L'auberge sur la région ». Et puis vous connaissez tous Rarogne, où se trouve la tombe de Rainer Maria Rilke face au soleil, au sud, et sur laquelle des personnes anonymes viennent toujours déposer des roses rouges parce que c'était les roses qu'il aimait tant. Et le paradoxe voudrait, pour la légende, que ce serait justement d'une piqûre de rose qu'il en serait mort. Or, la première fois que je suis allé en pèlerinage, en ce lieu historique, en regardant la stèle qui se trouvait adossée au mur de l'église, derrière la tombe, j'ai lu la célèbre phrase gravée en allemand et que je traduis en français ici spontanément, que vous devez tous connaître. C'est « Rose, ô pure contradiction, volupté de naître le sommeil de personne sous tant de paupières. » Voilà pour ces illustres visiteurs, très sommairement exprimés. Mais dans un autre de mes livres, qui s'appelle « Les destinées exceptionnelles », je m'étais mis en tête de regarder ce qu'il y avait dans notre canton de particulièrement illustre et de particulièrement célèbre. Et dans un chapitre que j'ai intitulé « Valais, terre des génies », j'ai choisi trois personnages, ou plutôt quatre personnages, dont trois du Haut-Valais. J'ai choisi d'abord Mathieu Schiner, puis César Ritz, le docteur Guglielminetti et Isaac de Riva. Pourquoi Schiner? Eh bien, parce que Schiner est d'actualité aujourd'hui plus qu'il ne l'a été jamais. En effet, à la fin du XIVe siècle déjà, au début du XVe, plutôt du XVIe, Schiner avait l'idée, cette idée lumineuse, de faire de l'Europe un Saint-Empire. C'est-à-dire une Europe qui serait à la fois unie et chrétienne. C'est un peu ce que l'on cherche à refaire aujourd'hui avec des notions beaucoup plus terre à terre, troquant la sainteté pour l'économie, troquant la littérature pour le social. Enfin, en changeant un petit peu les mots, mais c'est un peu l'Europe d'aujourd'hui qu'il voulait faire. Or, Schiner me paraît particulièrement intéressant parce que il a d'abord été évêque de Sion. À une époque où le Valais n'existait que par le Haut-Valais, il n'y avait pas de Valais d'expression française. Il y avait le Haut-Valais qui descendait jusqu'à la Morge, Sion y compris, et au-delà, c'était un Valais morcelé. Un Valais qui appartenait à des seigneurs de Savoie ou d'ailleurs, et qui appartenait même à des Hauts-Valaisans, puisque de Stockalpère possédait des terres qui jouxtaient le lac Léman. Or, Mathieu Schiner, en voulant être à l'origine de ce Saint-Empire germanique, est devenu, entendez bien, est devenu 300 ans avant l'entrée du Valais dans la Confédération, est devenu le chef, paradoxalement, de l'armée suisse qui allait défendre le Saint-Siège contre l'armée de François Ier qui lui disputait la région du Milanais, sachant fort bien que celui qui s'emparerait de cette région régnerait à peu près sur les deux tiers de l'Europe. Alors ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'il y a de frappant, dans la présence de historique de Mathieu Schiner, c'est que 300 ans avant l'entrée du Valais dans la Confédération, lui était déjà dans la Confédération helvétique, puisqu'il en était non seulement le chef spirituel, mais également le chef des armées. Pourquoi Isaac de Riva? Pourquoi Guglielminetti? Pourquoi César Ritz? C'est bien parce que César Ritz, qui est devenu, vous le savez, le porte-parole de l'hôtellerie dans le monde entier, parce que César Ritz représente tout à fait, à mon sens et à ma sensibilité, l'homme qui, parti de rien, arrive à devenir universel. Ce petit berger de Niederwald qui allait garder les chèvres dans les hauts plateaux, un beau jour s'en est allé et brusquement, 100 ans plus tard, on en parle dans le monde entier. Pourquoi j'ai associé enfin Isaac de Riva, qui lui était bavalaisan, et le docteur Guglielminetti, qui d'origine italienne a d'abord habité Saint-Plon-Village, puis est venu s'installer à Brie. Pourquoi ces deux hommes? Eh bien parce que Isaac de Riva a été l'inventeur du moteur à explosion, qui était le début, qui était en quelque sorte la naissance de l'automobile. Et pourquoi le docteur Guglielminetti? Eh bien parce que, n'étant pas prophète dans son pays, il est parti pour Sumatra, où, après avoir chassé le tigre, il est revenu dans une région où il y avait des épidémies de choléra très intenses. Et il s'est aperçu là que pour aseptiser les salles où on soignait ces malades, on enduisait les planchers avec du goudron. Et que ces planchers enduits avec du goudron permettaient un nettoyage plus facile, plus radical, donc une propriété et une propreté plus évidente. Quelques années plus tard, il est devenu, sur la Côte d'Azur cette fois-ci, le médecin attitré des grands ce monde, surtout du côté de Monte Carlo. Et tous ces grands de ce monde, on était dans la seconde moitié du 19e siècle, tous les grands de ce monde roulaient en automobile. Et cela dégageait, vous imaginez bien, des nuages et des nuages de poussière. Et alors tout d'un coup, il a eu cette idée lumineuse de se dire, et si on enduisait ces routes poussiéreuses avec du goudron, comme je l'avais fait à l'hôpital de Padang pour me protéger du choléra, est-ce que nous n'obtiendrions pas là un air plus salubre et une circulation plus facile? On a fait les premiers essais, les essais ont été concluants, et ça a été en quelque sorte l'avènement du tourisme. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'a appelé par la suite le docteur Goudon. Maintenant, je veux en venir au Haut-Valais, à ce que je pense du Haut-Valais. Quand j'étais tout enfant, ma mère, qui n'était jamais venue dans votre région, ma mère qui me prenait sur ses genoux pour me raconter des histoires, commençait toujours par ces mots: autant qu'ils m'en souviennent. Et elle me racontait des légendes qui toutes, curieusement, se situaient dans le Haut-Valais. Et il y avait toujours, dans ces histoires, Dieu, le diable, et une âme au milieu. Et forcément, l'un et l'autre se disputaient l'âme qui se trouvait au milieu. Soit d'un pont, soit d'un chemin, soit d'une colline. Enfin, c'était toujours le même schéma. Et bien entendu, l'âme partait toujours du bon côté, parce que ma mère étant très, très, très pieuse, n'aurait pu concevoir qu'elle puisse aller ailleurs. Alors j'ai eu là, à travers la sensibilité de ma mère, j'ai eu là un regard profondément touché et complice pour votre pays, où j'ai eu l'occasion, pendant 4 ans en tous les cas, de 1960 en 1964, où j'ai eu le privilège de venir très souvent alors que j'étais responsable de la télévision romande pour le canton. Je suis donc allé un petit peu partout. J'ai exploré toute la vallée du Lochental, et quand j'allais dans le Lochental, c'était à la porte du prieur Siguen que je frappais, et c'était lui qui me parlait de sa vallée, de ses maisons, de ses habitants, de ses coutumes, de ses mœurs, de sa vue sur le monde. C'était un philosophe universel et il m'a fait pénétrer dans un pays que je percevais de plus en plus perméable à ma sensibilité, mais que je ne connaissais encore pas très 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 bien. D'un autre côté, je suis allé dans la vallée de Saas, parce que la vallée de Saas est une vallée très typique. Et là, c'était le maître de cérémonie de l'endroit, Bouman, ou Beur Bouman, qui m'orientait un petit peu partout, à la langue floue, à la cabane Britannia, et de l'autre côté de la vallée, c'était le patron de la station de Zermatt, Constant Cachin, qui lui défendait non seulement Zermatt, mais encore tous les environs, à sa manière. Je suis donc entré dans ce pays à travers les vallées et j'ai compris petit à petit, en découvrant un village, en découvrant un autre village, ce que mes prédécesseurs illustres avaient ressenti. Je me souviens par exemple que, alors qu'il se trouvait un jour à Randa, Wimper écrivait ce pays, en parlant de Randa et de la vallée, ce pays est l'avenir de mes ambitions. Comment voulez-vous mieux définir l'amour qu'un Anglais a pour une région, pour une vallée, qu'à travers une telle confidence? Il est vrai que entre Wimper et le Cervin, il y avait une véritable histoire d'amour. Mais il est vrai aussi, et peut-être davantage, qu'entre les Anglais et le Haut-Valais, il y a eu une histoire intime, profonde et quasiment extraordinaire. Comment deux sensibilités différentes par la culture et par la langue pouvaient se rapprocher, se reconnaître et s'identifier avec une telle acuité de pensée et une telle volonté de communiquer. Et je crois que cette histoire d'amour entre Wimper et le Cervin, qui se répète entre toute une société anglaise et le Haut-Valais, est peut-être l'une des plus grandes preuves de fidélité qu'on puisse vous formuler. Parce que j'ai toujours pensé que votre qualité première est justement celle de la fidélité. Je me souviens que Jean-Jacques Rousseau, traversant lui aussi tout le Valais, après avoir fait une halte à l'auberge d'or de Munster, que certains Français appellent l'auberge de la Croix-Blanche et que l'ont dit, paraît-il, l'auberge de la Croix d'Or, Rousseau disait « Je n'ai jamais vu un paysan autant imprégné de sa terre que dans ce coin du pays. » Là aussi, l'aveu est remarquable. J'ai encore, bien sûr, d'autres attaches avec le Haut-Valais, indépendamment de ceux qui se sont liés entre mes enfants et une famille haut-valaisanne. J'ai des attaches d'images, parce que ce sont vos images qui ont traversé un petit peu toute mon existence, au point que toutes les fois qu'il s'agit pour moi de parler du Valais, c'est un petit peu le vôtre que j'évoque. C'est un petit peu le vôtre que je sens et que je ressens. C'était la vérité d'un pays auquel, à laquelle il s'attachait, et non pas à la langue qui était l'apanage des autres stations. Pour moi, le Haut-Valais n'est pas l'Allemagne. On a tendance à croire que nous autres Suisses romands, que nous voyons le Haut-Valais comme l'Allemagne ou comme la Suisse alémanique. Je crois que le Haut-Valais est une sorte de no man's land et qui n'est absolument pas imbriqué dans l'Allemagne et qui a ses différences avec la Suisse allemande, la Suisse alémanique, de la même façon que le Valais roman n'est pas la Suisse romande, il y a une différence de sensibilité, et que le Valais roman n'est pas non plus la France. Là, je crois que notre communion est quasiment la même, vous par rapport à l'Allemagne et nous par rapport à la France. Si je fais une extrapolation et que je me situe à l'extérieur de la Suisse, et que l'on me demande « Vous êtes de quel pays ?» Eh bien, automatiquement, je vais répondre « Je suis Suisse. » Alors, si je parle français, automatiquement, on va me situer en Suisse française. Si je parle allemand, automatiquement, on va me situer en Suisse alémanique. Si je suis bilingue, cela dépendra de la langue que je vais choisir pour être soit de la Suisse française, soit de la Suisse allemande. Quand on m'aura demandé et que l'on saura que je suis suisse, on va aller plus loin. On va me poser la question, mais d'où en Suisse? De quel canton en Suisse? Alors je vais répondre, du Valais. À partir du moment où je réponds du Valais, si je réponds en français, on va me dire c'est un francophone. Si je réponds en allemand, on va me dire c'est un germanophone. Mais, avant tout, on me catalogue comme un Valaisan. Donc là, je crois qu'il y a une unité dans la pensée de l'extérieur qui veut qu'avant d'être d'une culture ou d'une autre culture, avant d'être haut Valaisan ou bas Valaisan, nous sommes avant tout Valaisan. Et c'est en tant que Valaisan qu'on nous apprécie, qu'on nous accueille, qu'on nous admet, et en tout cas que on nous enregistre sur le plan de la sensibilité. Cela me paraît infiniment important d'être considéré comme une entité globale et non pas comme deux cantons dans un, ce qui serait véritablement gênant parce que nous deviendrions antagonistes au lieu d'être partenaires. Or, en nous considérant tous en famille comme des Valaisans, nous sommes véritablement partenaires, nous sommes véritablement ensemble et en pleine communion. Qu'est-ce qu'il fait alors que cette communion soit à ce point total et exemplaire pour l'étranger? Eh bien, je crois que c'est avant tout le décor. Nous sommes entre les Alpes, nous sommes les habitants d'une vallée, avec d'autres vallées forcément latérales, mais nous sommes des habitants du Rhône et de la source du Rhône et d'une vallée. Et je crois que nous avons tous vu, en naissant, nous avons tous vu les mêmes images. Nous avons tous été imprégnés par les mêmes gestes. Nous avons tous eu, au départ, la même langue, celle qui ne se détermine pas par les mots, celle qui ne se détermine pas par les phrases, par la littérature, mais celle qui se détermine avant tout par les sentiments. Je crois que quand un enfant, avant une année ou une année et demie, se trouve sur les genoux de sa mère, il parle dans les yeux de sa maman. Il y a une écriture qui s'installe entre l'enfant et la mère, qui est une écriture qui dépasse une langue, parce qu'elle devient universelle, parce que c'est le langage des sons, c'est le langage des saveurs, c'est le langage des odeurs. Je vous dirais qu'en ce qui me concerne, le premier mot qui a été le langage qui m'a relié à ma mère, ce n'est pas un mot de dictionnaire, ce n'est pas un mot syllabé, ce n'est pas un mot déterminé, c'est une odeur. Ma mère avait le goût du lait. Et quand j'interroge ma mémoire, quand j'essaye de savoir quel a été le premier mot que ma mère m'ait appris, je suis obligé de me dire, le premier mot que ma mère m'a appris, ce n'est pas un mot, c'est une odeur. Et je crois que là, cette relation privilégiée entre la mère et l'enfant, ici en Valais, a été la même dans le Haut-Valais que dans le Bas-Valais. Là, nous sommes à nouveau dans une osmose parfaite. Le second langage que nous avons appris sans le bien connaître, sans le bien entendre, c'est le langage de la foi, c'est-à-dire le latin. Nous avions, dans vos églises, comme dans les nôtres, nous avions la même langue, que nous ne comprenions pas mais que nous devinions, c'était une langue un petit peu comme la musique, qui à la fois nous disait tout et ne lui disait rien. Quand j'entendais Pater Noster, tout enfant, je ne savais pas ce que cela signifiait, mais à l'intervention du prêtre, je savais si c'était grave, si c'était lumineux, si c'était la souffrance, ou alors si c'était la lumière. Il y avait une musique dans ce latin qui faisait que tout était saisissable dans l'incompréhensible. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. On savait tout sans savoir. Et c'était un petit peu la même chose que l'apprentissage que faisait l'enfant, que font toujours les enfants, et qui, avant les premiers mots, connaissent le sens des mots par les sons qu'on leur imprime. La mère qui gronde un enfant qui ne comprend pas encore le vocabulaire, l'enfant sait qu'il est grondé au son du ton utilisé par la mère. Donc il y a un langage des sons et qui est peut-être beaucoup plus profond, qui est plus vivant, qui est plus vivace et qui dans la transmission est plus spontané que le langage des mots. Là encore, nous sommes en communion. Où vous devenez, vous autres, en tous les cas pour moi, vous devenez une sorte de référence, c'est quand il m'arrive très souvent d'aller dans vos églises ou de me rendre dans vos cimetières. J'ai toujours été impressionné par vos cimetières, parce que ce sont véritablement des lieux de reconnaissance et de souvenirs. J'ai toujours en mémoire ces croix avec des toits qui représentent pour moi des maisons de l'au-delà. Vous protégez les croix avec des toits, ce qui ne se fait pas chez nous. Il y a d'autre part un souci chez vous de soigner les tombes, d'entretenir les cimetières, qui est un témoignage vibrant de gratitude à ceux qui vous ont fait et à ceux que vous portez aujourd'hui dans votre cœur et dans votre histoire, parce que chacun est à la fois porteur d'une histoire. Maintenant, je vais changer un petit peu de thème pour arriver dans l'essentiel de ce que je voudrais vous dire sur mon expérience personnelle. Et là, je pense que vous allez ressentir, enfin j'espère que vous allez ressentir à travers les sentiments que je vais m'efforcer d'exprimer, de définir, que vous allez sentir ou ressentir un petit peu de votre vécu à vous. Je suis né dans une famille de 13 enfants, 3 sont morts. Et la famille de l'époque, qui m'a profondément marqué, était une famille très typée. Elle comprenait une mère, servante du Seigneur, alma mater, source de tendresse, et un père, autorité suprême, un père qui tranchait, un père qui détenait l'autorité. Et des enfants appelés à devenir des reproductions du Père et non pas à se marginaliser. J'ai vécu une enfance que l'on dit pauvre, que l'on dit parfois même misérable. Il y avait en effet de la pauvreté, il y avait de la misère, mais il y avait surtout de la dignité. Chacun assumait ses propres indigences et chacun ressemblait à tous, en ce sens que les familles s'identifiaient les unes aux autres. Et régnait entre elles un esprit de solidarité extrêmement vigilant qui faisait que le pain des privilégiés était volontiers partagé avec celui qui manquait sur la table des plus démunis. L'éducation que j'ai reçue était une éducation extrêmement stricte, extrêmement rigoureuse. Mon père ne savait pas exprimer la tendresse ou l'affection. Il s'en cachait. À cette époque-là, les hommes ignoraient ce qu'était de pleurer. On ne pleurait pas, parce que pleurer aurait été dégradant pour eux. En revanche, les mères surtout, les femmes, mais les mères surtout, les mères apprenaient à pleurer. J'ai ici une image extrêmement forte qui va peut-être heurter certains d'entre vous. Mais cette image m'a poursuivi tout au long de ma vie. C'était dans les colères de mon père, que l'on pourrait expliciter aujourd'hui dans les querelles de ménage. Eh bien, quand mon père colérait, quand mon père grondait pour faire valoir son autorité, il attendait toujours que ma mère se mette à pleurer. Et quand ma mère se mettait à pleurer, lui s'apaisait. Cela signifiait que son autorité n'était pas mise en doute. Cela signifiait qu'il était toujours le paternoster, le patriarche. Après l'enfance, il y a eu l'école. Et à l'école, j'ai retrouvé un autre père. C'était le régime. On était loin des professeurs d'aujourd'hui. Sans que j'enlève un seul des multiples mérites que les enseignants d'aujourd'hui ont, mais les régents d'autrefois prolongeaient en quelque sorte le père que nous avions dans les familles. À tel point que, quand une faute était commise, la sanction intervenait directement de la part du régent, qui nous fouettait. Et si nous allions nous plaindre à notre père d'avoir été ainsi maltraité, souvent en raison, parfois dans l'injustice, enfin, maltraité, eh bien, notre père nous punissait une seconde fois. Or, aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. D'ailleurs, les professeurs n'oseraient plus battre leurs élèves, d'une part, et puis si un élève était battu, eh bien automatiquement les parents prendraient le téléphone ou écriraient une lettre chargée au département d'instruction publique, et puis pour finir, ce serait l'enseignant qui serait puni. Donc les rôles étaient complètement changés. Sans être un nostalgique de cette époque-là, dont je porte les stigmates de certaines souffrances, de certaines brimades, je dois dire que dans cette autorité hiérarchisée, il y avait quelque chose de sain, de patents, de volontaires, et oui, je dirais le terme, de bons, de grands. Les rôles étaient très marqués, ils étaient parfois caricaturés, mais ils étaient assumés et par les uns et par les autres. Après l'école primaire, notre famille, c'est en 1943, notre famille a éclaté à la mort de ma mère. Ma mère étant morte, un père avec 10 enfants en vie, 3 étant morts, il n'y avait plus de famille. Parce que quand il n'y avait plus de mère, la famille n'existait plus. Alors chacun devait se débrouiller comme il pouvait. Les uns étaient prêtés à d'autres, et ceux qui n'étaient pas prêtés à d'autres, devaient se débrouiller, J'avais eu avec mon père une très mauvaise relation, en ce sens que, depuis tout petit, je m'étais mise à penser autrement, c'est-à-dire à écrire. Et à cette époque-là, écrire et penser, c'était dangereux. C'était dangereux pour tous, pour la famille, pour la société, pour la religion. Parce qu'on ne devait pas penser, il fallait simplement obéir. Alors de ces relations avec mon père, j'ai encore une autre image qui était extrêmement forte, parce que il y a une relation avec l'œil de Caïn, enfin, dans mon imagination, il y a une analogie, parce que mon père était borgne. Là encore, j'ai une image très forte. Mon père était borgne. Et il a perdu son œil, je l'ai su beaucoup plus tard, il a perdu son œil alors que ma mère me portait dans ses entrailles. Et un jour, quand j'ai eu 5 ans, je me trouvais dans la cuisine, je vois la scène comme si elle se déroulait maintenant. Mon père se rasait. Il avait installé le miroir contre le mur du fond de la cuisine. Il avait un rasoir couteau dont il affilait la lame sur une lanière de cuir. Il prenait son blaireau, il le faisait mousser sur la savonnette et il se badigeonnait le visage. Et puis quand il a eu terminé de se raser, il a eu, je crois, un geste maladroit et j'ai entendu tomber quelque chose. Alors je regarde sur les planelles de la cuisine, parce qu'on les appelait alors, non pas les catènes, on appelait les planelles de la cuisine. Je regarde, et qu'est-ce que je vois? J'avais 5 ans. Je vois l'œil de mon père. Et l'œil de mon père me regardait. Alors, je regardais l'œil de mon père sur la cuisine, sur les planelles de la cuisine, et je regardais mon père devant la glace qui était de dos, et il me semblait que mon père était dans l'œil qui était sur les planelles et qu'il n'était plus dans celui qui se regardait dans la glace. Puis, mon père s'est retourné, il a pris son œil, et puis il s'est remis de dos, et quand je l'ai revu face à face, c'était l'œil gauche, et quand je l'ai revu face à face, il avait de nouveau les deux yeux. Alors le petit enfant de 5 ans que j'étais se demandait quel était de ces deux yeux que je voyais celui que j'avais aperçu dans la cuisine. Et j'ai toujours eu la certitude que c'était l'œil gauche. Et effectivement, ma mère me l'avouera bien plus tard, c'était l'œil gauche. Or, en 1943, en février, quand ma mère est morte, j'étais assis à côté de mon père. Et c'est ce mois-là, un mois d'hiver, c'était un jour très froid. Pour la première fois, j'ai vu mon père qui pleurait. Et je voyais les larmes qui tombaient une à une sur le banc, un petit peu comme le goutte à goutte qu'on voit dans certains hôpitaux. Et bien, les larmes tombaient une à une sur le banc, mais que d'un côté, que du côté gauche. Mon père pleurait de son œil de verre et pas de son œil vivant. Je ne l'ai jamais su pourquoi. Je n'en ai jamais su la raison. Après cette famille, quand je suis parti, notre famille ayant disparu, quand je suis parti, je suis allé dans les barrages. Vous savez que dans les barrages de montagne, parce que c'est important, c'est les portes charnières de notre société, nous avons passé, pour ainsi dire, d'une époque que je situerai avant Jésus-Christ à une époque que je situerai après Jésus-Christ. En 10 ans, nous avons changé de monde. Alors je suis allé dans les barrages de montagne. Et alors là, j'ai découvert un autre univers. J'ai découvert l'univers du travail. Ça a été un univers absolument infernal. J'ai vu là-haut des choses que personne ne peut imaginer. Nous travaillons dans des galeries. Et dans ces galeries, nous étions payés pour tout. À l'avancement. Alors on nous payait pour travailler dans l'eau. On nous payait aussi pour mourir. Puisque quand on mettait des cartouches de dynamite pour faire sauter le rocher et que ces explosions étaient commises à l'aide de fils de coton, de mèches, ce n'était pas encore le système électrique d'aujourd'hui. Alors il arrivait que des coups ne partaient pas. Et quand les coups ne partaient pas, ben les mineurs allaient voir, et puis c'était souvent au moment où on prenait la mèche de la cartouche que tout explosait, l'homme avec. J'ai une autre de ces images, c'est qu'une fois je me trouvais dans une galerie qui s'appelle la galerie de Tleuson à Lèves, et comme j'étais charpentier, mon père étant charpentier, j'étais charpentier, nous procédions par étapes. Il y avait d'abord les mineurs, puis il y avait les coffreurs, c'est-à-dire les charpentiers, qui faisaient les cintres en bois, avec des armatures métalliques, et puis il y avait les maçons ensuite, qui pelletaient le béton sur les coffrages. Et les mineurs avaient foré leurs trous, vous savez, dans les burins qui servaient à forer les trous, il y avait une petite ouverture par où aurait dû passer l'eau pour aller colmater la poussière et empêcher cette poussière d'être absorbée par les mineurs, parce qu'au bout de 5 ou 6 ans, ce cumul de poussière détenchait une maladie terrible qu'on appelait la silicose et qui tuait son homme au bout de 20-25 ans. Eh bien, ce jour-là, on avait foré 10 trous. Et quand les mèches ont été allumées, on était une équipe de 8 personnes, de 8 ouvriers. Il y avait 2 mineurs, il y avait 2 charpentiers et 4 maçons. Et quand les trous ont été forés, les mèches ont été allumées, les coups sont partis, chacun s'est mis à les compter. Alors on comptait les trous, les coups. Et quand on arrivait au nombre de 10, il y avait 10 coups, ou 12 coups quand il y en avait 12, alors on pouvait être rassuré, cela signifiait que toutes les cartouches avaient explosé. Alors ce jour-là, personne n'était d'accord sur le nombre de coups qui étaient partis. Les uns disaient 10, les autres 11, les autres 12, enfin les autres 9. Parfois, certains ouvriers avaient entendu plus de coups qu'on avait mis de cartouches, et parfois beaucoup moins. À tel point qu'au bout de demi-heure, un des mineurs, il s'appelait César, un des mineurs est allé voir. Nous étions tous derrière à 7 ou 8 ou 10 mètres. Il n'y avait pas de fumée, il n'y avait pas de feu. Il a pris la mèche comme ça et nous avons vu qu'une explosion. L'homme avait complètement disparu. Comment sommes-nous comportés? Eh bien, la mort dans ces chantiers, des barrages, faisait à tel point partie de la vie, de tous les jours, que nous avions toujours des sacs en plastique et une ramassoire avec une brosse. Eh bien, quand le pouillant, on appelait ça le pouillant, quand la poussière s'est dissipée, nous avons pris la ramassoire et la brosse, nous avons cherché ce qui restait. Vous devinez de quoi? Nous avons mis dans le sac à plastique, le sac en plastique, dans le wagonnet, et nous sommes sortis avec la dépouille mortelle de cette façon-là. Je crois que cela se passe de tout commentaire. Nous avions aussi un antagonisme frappant avec les ouvriers étrangers qui étaient pour la plupart des Italiens. Ces ouvriers italiens se situaient dans une cantine et nous dans une autre cantine. Ce qui voulait dire que d'un côté il y avait les bons et de l'autre côté il y avait les mauvais. Mais petit à petit, lorsque j'ai été nommé chef d'équipe puis contremaître, je me suis dit que, en essayant, par la langue, d'entrer dans ce peuple qui se trouvait à l'écart, eh bien, on pouvait peut-être forger une sorte de fraternité qui ne pouvait pas, qui n'aurait jamais pu s'organiser d'une autre façon. Alors j'ai appris un petit peu l'italien, puis beaucoup. Les ouvriers italiens ont appris le français, et de plus en plus, et nous nous sommes aperçus que les uns, en apprenant la langue des autres, c'était un petit peu comme si deux mondes opposés, en faisant chacun des pas en avant, allaient se rapprocher pour se reconnaître.